Bonsoir. L'Assemblée nationale a invalidé 5 députés samedi 15 juin dernier lors de la clôture de la session de mars. Il leur est reproché l'absence non justifiée à plus d'un quart des séances plénières. Province du Katanga, le calme est revenu depuis dimanche après-midi à Lubumbashi, ce après les affrontements entre les Bakata Katanga et les FRDC au village Sindaika, situé à plus ou moins 20 km de la ville de Lubumbashi. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Autour de cette table, nous avons Luc Mikomo Kabonga, qui est le journaliste à Congo Web, une télévision qui émet depuis Kinshasa, et éditeur du journal Nouveau Regard. Bonsoir Luc Mikomo Kabonga.
Bonsoir.
Joël Kadé Danga, il est éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Joël Kadé Danga, bonsoir.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir auditeur.
Et Donat Moussema, il est directeur de la radio communautaire Iriba FM, émettant depuis Bukavu, Sud Kivu, et secrétaire provincial de l'UNPC. Bonsoir Donat Moussema.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous les confrères et à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission. Cinq députés nationaux invalidés, réapparition des combattants Bakata Katanga, c'est parmi les informations qui ont défrayé la chronique cette semaine. Pour savoir comment la presse a analysé ces différentes informations, on écoute cette revue de presse que nous propose Samuel Kachak.
Bonsoir. Forum des As rapporte un coup de théâtre au dernier jour de la session de mars à la chambre basse du Parlement. Ce journal rapporte que les députés Félix Tshisekedi, Mbusa Nyamwisi et Diomine Dongala ont été radiés. Pour cause, ils ont totalisé des absences non justifiées et non autorisées à plus d'un quart des séances de la session ordinaire de septembre 2012 ainsi que de la session de mars 2013. L'avenir qui annonce un tsunami à l'opposition suite à l'invalidation de ses députés absentéistes estime que la politique de la chaise vide ne paie jamais, d'autant qu'on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire à la fois. Selon ce journal, refuser de siéger mais percevoir les dividendes est contraire à l'esprit et la lettre de la loi et même de la morale. Autre sujet rapporté par les journaux cette semaine à Kinshasa, c'est les affrontements intervenus près de la ville de Lubumbashi opposant les FRDC et les Bakata Katanga. Le potentiel qui fait écho de cette information signale que ces affrontements se sont déroulés au village Sindaika, à près de 20 km de Lubumbashi. Des sources locales citées par ce journal font état d'un militaire tué et plusieurs miliciens ainsi que des civils blessés. Forum des As estime incroyable mais vrai que ces miliciens, munis uniquement d'armes blanches, fassent encore parler d'eux en occupant une position de la périphérie de Lubumbashi, capitale de cuivre protégée comme du fort, et le potentiel de renchérir en s'étonnant de la mollesse de la réaction des autorités face à ces hors-la-loi. Pour le journal, il y a certainement des intérêts obscurs qui agissent dans l'ombre. Un dessous de cartes qui échappe à l'entendement du grand public conclut ce journal. Comme autre sujet commenté par l'actualité cette semaine, figure l'arrestation des étudiants congolais en Inde, la déclaration du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malumalu, qui promet une organisation crédible, transparente et professionnelle des prochaines élections en RDC. Et enfin, le déroulement du premier tour cycliste de la RDC.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire, Luc Mikomo Kabongatre. Vous êtes directeur des informations à Congo Web Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Vous êtes aussi éditeur du journal Le Nouveau Regard. L'actualité, c'est aussi cette affaire des étudiants congolais et qui ont été arrêtés, relâchés 3 jours plus tard en Inde.
Oui, une fois de plus, merci Guy. Moi je dis simplement, si on suit le résumé de la presse telle que l'a traité les différents sujets cette semaine, je trouve que plutôt la presse est allée du bon côté. L'invalidation, si vous me permettez, des députés,
je vous en prie, oui.
Je crois qu'on doit cesser de politiser cette affaire. Il s'agit d'une décision administrative qui est conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc, nous allons y revenir pour donner un peu plus d'éléments. Mmh. Quant aux compatriotes qui ont été arrêtés, maltraités, et
en
même
Inde.
En Inde, je félicite la bravoure du peuple congolais habitant à Kinshasa. J'ose croire très sincèrement que n'eût été l'engagement des Congolais à pouvoir dire si on ne libère pas nos compatriotes, nous allons gâcher les choses ici à Kinshasa. Cela a beaucoup joué dans la prise des décisions qui sont allées un peu plus vite afin que ces compatriotes-là retrouvent leur liberté. Mais il est bien vrai que si on les accuse d'avoir attaqué et battu et des Indiens et des policiers, il y a à redire. Est-ce que c'était la seule voie pour se faire entendre? Je n'étais pas sur place. Je pense que je dois émettre plutôt un avis modeste. Mais quoi qu'il en soit, on ne doit pas, par un relent de racisme, comme je l'ai entendu dire de notre ambassadeur en Inde, maltraiter des Congolais qui sont allés étudier simplement en Inde. Ça, inacceptable.
Voilà. L'autre actualité, c'est cette première déclaration de l'abbé Apollinaire Malumalu, depuis qu'il a été désigné à la tête de la CENI. Il a promis des élections crédibles, transparentes et professionnelles.
Bien, j'ose croire que l'abbé Malumalu fait un peu aussi de sa pub, parce qu'il a été au centre d'une controverse entre son institution, qui est l'Église catholique, son évêque Melchisedec Sikouli et lui-même. Et maintenant que il a mis sur pied sa stratégie et il a appliqué la politique du chien qui aboie et la caravane qui passe, il veut revenir et dire attention, je ne suis pas n'importe qui, même s'il a été relativement modeste quand on lui a posé la question à l'Assemblée nationale si les relations avec lui et l'Église étaient encore bonnes. Peut-être, si vous nous donnez l'occasion, on va y revenir là-dessus.
Joël Kadedanga, vous êtes éditeur du journal Impact News, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Une certaine opinion salue la manière dont le gouvernement congolais a géré cette question des étudiants congolais arrêtés en Inde. Vous savez que le gouvernement a communiqué sur toutes les étapes, n'est-ce pas, qui ont abouti à la libération de ces étudiants.
Quand est-ce que le gouvernement congolais est intervenu? Il faut par contre saluer la bravoure de réseaux sociaux qui ont alerté ces situations depuis samedi, dimanche. En tout cas sur Twitter, Facebook, c'était en ébullition pour informer de l'état de nos Congolais. Et le gouvernement n'est intervenu que quand les parents des étudiants sont allés pour voir le vice-ministre qui assume l'intérim du ministre des Affaires étrangères qui est à Kampala.
Il faut quand même saluer cette intervention parce que
l'intervention, le gouvernement n'est pas resté... L'intervention devait être a priori dans la mesure où il fallait que l'ambassadeur de l'Inde accrédité à Kinshasa soit convoqué au préalable pour l'entendre, pour s'enquérir de la situation. C'est ça, les us diplomatiques. Et ensuite, si vous trouvez que vous n'êtes pas bien informé, et vous faites votre mise au point. C'est ce qui a été fait, mais sinon, il faut saluer vraiment l'impact des réseaux sociaux et qui a permis que nous voyions les photos circulaient déjà sur le net depuis samedi, dimanche, et le lundi, les parents sont allés voir le gouvernement qui a réagi à ce niveau-là. On peut saluer l'intervention, une réaction du gouvernement par rapport à la venue ou à la visite des parents des étudiants.
Et un mot par rapport à la déclaration de l'abbé Apollinaire Malumalu qui promet des élections crédibles, transparentes et professionnelles.
Pouvons-nous faire foi à M. l'abbé Malumalu? En tout cas, je me pose beaucoup de questions. Une personne en qui son église, son institution, comme Luc l'a dit tantôt, n'a pas confiance, son évêque n'a pas confiance, et l'Église a dit qu'elle n'a pas délégué quelqu'un, un religieux particulièrement.
L'Église n'a pas dit qu'elle n'a pas confiance en la personne de l'abbé Malumalu. L'Église a dit qu'elle n'a pas désigné l'abbé Malumalu pour aller la représenter
au
sein de la CENI.
On désigne quelqu'un. L'Église désigne. L'Église a désigné un laïc. C'est dire qu'on n'a pas confiance en la personne. Et en conséquence, la personne devait se soumettre. Si la personne ne peut pas se soumettre à sa propre Église, il va se soumettre à qui? Sinon, aux personnes pour qui il est au service.
Merci. Donald Moussema, je rappelle que vous êtes directeur de la radio communautaire Iriba FM, mettant depuis Bukavu au sud Kivu. Vous êtes aussi secrétaire provincial de l'UNPC. Quelles leçons peut-on tirer de cette affaire d'arrestation des étudiants congolais en Inde?
Bon, d'abord, la nouvelle est tombée très mal dans nos oreilles, parce que ce n'était pas bien pour le maire du Congolais. Mais ce que j'ai apprécié personnellement, c'est le fait que pour une fois, on a senti le gouvernement concerné. Il a réagi avec spontanéité et avec beaucoup de déclarations. Il a fait quand même un suivi. J'ai personnellement apprécié cela. Ce qui m'a aussi choqué comme enfant ou congolais, c'est que je n'ai pas apprécié le fait que il y a une tendance de racisme dans le dossier, parce que quand on a transmis l'affaire au niveau de la police indienne, on a tout de suite là transformé l'affaire en un mensonge. J'ai pensé qu'il y a eu une affaire de racisme dans le dossier, et ça, je n'ai pas aimé.
Donald Moussema, vous êtes au sud de Kivu, et plus précisément dans la ville de Bukavu. Quelle est l'actualité à la une dans cette ville?
À l'instant où je vous parle d'ailleurs, il y a eu une petite tension dans la ville de Bukavu. En fait, c'est dû au fait qu'il y a l'insécurité grandissante à Bukavu. Depuis maintenant 3 semaines, on ne passe plus une seule nuit sans enregistrer des morts causées par des hommes armés. Cette nuit, encore une fois, vers 3h du matin, dans la ville de Bukavu, au quartier Nkafu, des hommes armés ont tué par balle un enfant de 10 ans, du nom de William Diamokobela, lorsqu'ils ont fait irruption dans sa famille. Ils ont également blessé par balle le père de l'enfant, qui est à l'instant grièvement blessé et présentement en soins intensifs à l'hôpital général de Bukavu. Trop c'est trop, disent donc les habitants de Bukavu, qui disent ne savoir plus à quel sens se vouer. Et en réaction, ils ont barricadé la route, hôpital général vers le centre-ville, brûlé des pneus, barricadé la route ICM allant vers Walungu et Tanguy, vers Ouvira, pour protester contre l'enlèvement aussi de 3 personnes, cette nuit encore une fois, dont une femme médecin à l'hôpital de Tanguy. La police à l'instant intervient pour disperser les manifestants qui ont démoli même le cachot de la police nationale congolaise située à l'hôpital général de Bukavu. Et les détenus ont eu le temps de s'échapper. Ça, c'est sur le plan social. Mais sur le plan politique, 18 mois après, aujourd'hui, pas d'élection du vice-gouverneur en Sud-Kivu. Et cela malgré les voix des partis politiques, de l'opposition notamment, les voix de la population aussi, qui est celle des organisations de la société civile, qui continuent de monter au créneau pour exiger l'élection du vice-gouverneur en Sud-Kivu. Mais en tout cas, c'est resté en vain jusqu'à aujourd'hui. Il y a blocage visiblement, mais on ne sait pas à quel niveau. Les députés provinciaux disent attendre l'injonction de la CENI. La CENI dit à son tour attendre l'ordre de la majorité présidentielle à Kinshasa. Bref, c'est vraiment un flou, mais la population, le fait que toujours la pression pour qu'il y ait un vice-gouverneur, qui serait, selon elle, synonyme de, je dirais, de l'équilibre dans la gestion de la province, du Sud-Kivu, laquelle province est gérée aujourd'hui en solo par le seul gouverneur du Sud-Kivu, et ce qui est aux yeux de beaucoup de monde une entorse sur le plan constitutionnel, parce que la Constitution a quand même reconnu le poste de vice-gouverneur pour faire l'équilibre et pour faire avancer les choses.
Merci, merci Dola Moussema. Notre premier thème de ce soir, l'Assemblée nationale a invalidé 5 députés samedi 15 juin dernier lors de la clôture de la session de mars. Il leur est reproché l'absence non justifiée à plus d'un quart des séances plénières. Députés et sénateurs sont en vacances depuis le week-end dernier. Peu avant la fin de la session à l'Assemblée nationale, les députés ont invalidé les mandats de certains d'entre eux, parmi lesquels Eugène Diomine Ndongala, Félix Tshisekedi et Antipas Mbusa. L'Assemblée nationale reproche à ses élus l'absence non justifiée à plus d'un quart des séances plénières. Cette décision crée une controverse quant à l'interprétation de la loi. Jacques-Yves Molima pour les détails.
Si invalidation il y a, elle doit être conforme à la loi. Selon l'article 110 de la Constitution, un député national est invalidé pour absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session. À ce niveau, tout est clair. C'est-à-dire, pour la session de septembre 2012 par exemple, avec 30 séances, 9 absences suffisent pour qu'on soit invalidé. Et dans ce cas de figure, plus de 111 députés sont concernés. Mais la commission PAJ, dans son examen, a tenu à catégoriser les cas d'absence. On a des absences significatives et non significatives. Ceci est-il prévu par la loi? Les téléphones du président de la PAJ, le député Bokona, sonnent dans le vide. C'est à ce niveau que le bas blesse. Toutefois, s'il faut s'en tenir à cette catégorisation, il y a encore d'autres députés qui sont concernés mais qui n'ont pas été invalidés. Y a-t-il eu la politique des deux poids deux mesures? Toujours est-il que la commission a demandé aux députés concernés par ce qu'elle appelle cas d'absence non significative de déposer leurs pièces justificatives à la commission PAJ dans le mois qui suivra l'ouverture de la session de septembre 2013, donc en octobre prochain. Y a-t-il eu précipitation dans les conclusions? La question reste posée.
De l'Afrique du Sud où il séjourne, Antipas Mboussa-Nyamwisi désapprouve la méthode utilisée pour son invalidation et pense que cela est contraire à la promotion de la cohésion nationale. Il a été joint par Richard Junior Kamunga.
C'est d'abord de regretter que cela ait été fait sans qu'on m'ait demandé de m'expliquer sur mon absence à l'hémicycle, conformément à la règle, au règlement d'eau d'intérieur. Mais en même temps, je le comprends parce que je sais l'acharnement qui a toujours prévalu là-bas sur quelques personnalités qui ne sont pas en odeur de sainteté avec la majorité actuelle. Je pense que cela est contraire à ce qu'on attend de cette majorité parce qu'il est clair qu'il faut promouvoir la tolérance et je pense que cela est dans l'accord d'Addis Abeba, qu'il faut promouvoir la cohésion nationale, qu'il faut travailler sur les causes, les racines profondes des problèmes du pays, et ceci va dans le sens contraire de tout cela. Évidemment, cela n'affecte à rien mon enthousiasme et mon engagement pour la cause nationale. Je vais continuer à être utile. Donc, je vais rester en contact avec le membre de mon parti, de l'opposition, que je remercie au passage parce qu'ils m'ont fortement défendu, et pour essayer de promouvoir l'union, l'unité de l'opposition, afin de pouvoir donner des réponses que notre peuple attend.
Luc Mikomo Kamongatre, 5 députés nationaux invalidés par la plénière de l'Assemblée nationale pour raison d'absentéisme. Votre analyse?
Mais je disais tout à l'heure, Guy, que cette décision est d'abord une décision administrative. On peut donner la connotation politique qu'on veut, mais moi, je suis responsable d'une rédaction. J'ai déjà fait plus d'une fois de reportages sur l'absentéisme des députés de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas de la fiction, ça. On peut facilement constater que beaucoup de députés ne se présentent pas lors des plénières. Quand vont-ils plaider ou défendre les causes de leurs bases respectives qui les ont élus et qui les ont mandatés pour être leur bouche, leur oreille au sein de l'hémicycle? C'est que je regrette. On vient de suivre M. Mboussa Nyamwisi. Et si vous pénétrez même dans sa déclaration, vous sentez que c'est un monsieur qui parle en se reprochant quelque chose. C'est qu'il reconnaît qu'il a été absent et que cela étant selon l'esprit et la lettre de l'article 110, il a été justement sanctionné. Mais notre confrère qui vient de faire le reportage tout à l'heure se pose des questions. Jackie Moulima, est-ce qu'il y a eu de la précipitation? Est-ce qu'il y a eu deux poids, deux mesures? Si tel est le cas, encore faut-il qu'il faut prouver cela, ce serait alors malencontreux. J'ai ouï dire, je termine par là, qu'il y avait sur la liste 200 noms, plus ou moins 200 noms de députés absentéistes.
Et la plupart étaient des députés de la majorité présidentielle.
Et la plupart, comme vous l'avez si bien complété, étaient de la majorité présidentielle. On ne les a pas vus sur la liste des députés sanctionnés. Et là, ça pose un problème. Mais que ce soit un député de la majorité ou de l'opposition qui s'absente, il doit justement et équitablement être sanctionné sans autre forme de procès et sans état d'âme.
Joël Kadedanga, les députés qui sont élus, mais qui ne siègent jamais, qui ne sont jamais là, et c'est qu'il y a une infraction, et ils sont censés savoir que c'est une infraction. Faut-il continuer à entretenir cet état des faits, ou il faut appliquer la loi?
Oui, Guy, je crois que Luc l'a si bien dit, que s'il faut limiter cette affaire à son aspect d'ordre administratif, je crois que l'Assemblée nationale a raison. Mais comment peut-on limiter cette affaire à juste son aspect administratif alors que ça entraîne ipso facto la politique? Parce qu'il faut voir, sur la liste, on dit qu'il y avait au moins 100 députés absentéistes. Et où sont passés les députés de la majorité? Notre confrère Congo News a eu du temps du règne de M. Beauchamp comme président de l'Assemblée nationale, établi une liste des députés absentéistes, parmi lesquels il y avait des députés de la majorité. Et ils n'ont jamais été sanctionnés. Et nous sommes dans le seul pays au monde où les députés sont invalidés juste à cause de l'absence. Je crois que les députés ne reçoivent pas d'abord, un, son mandat de l'hémicycle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, avant de sanctionner quelqu'un, l'a-t-on entendu? pour savoir, et vous vous sentez même dans les commentaires de notre confrère Jacques-Yves Moulima, que j'ai salué tantôt, vous sentez qu'on a tenté de joindre le président de la commission ad hoc pour savoir si la loi, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, relève les cas des absences justifiées et des absences non justifiées. Cela n'est pas dit dans la loi. Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? Je crois que le bureau de l'Assemblée nationale actuelle, dirigé par l'honorable Obeng Inaku, est en train pratiquement de creuser la tombe de la majorité en prônant l'intolérance politique. Alors, vous sentez cette intolérance? Toute personnalité qui n'est pas en odeur de sainteté, je vole le mot à M. Mboussa Nyamwisi, à la majorité présidentielle, il faudrait qu'on lui jette les pots de banane, parce que si... dans ces lots, on avait retrouvé les députés de la majorité, on avait retrouvé en même temps les députés de l'opposition, ça pouvait se justifier. Mais là, je peux citer les noms de ceux qui ont été invalidés. Il y a Antipas Mboussa Nyamwisi, SDKML, Félix Tshisekedi, UDPS, Diomi Dongala. Et lequel Diomi Dongala? Son affaire est à la Cour suprême de justice. Et là, on veut tout simplement, on va profiter de cela pour le poursuivre, pour atteindre à la sûreté de l'État. Ce sont des délits pratiquement et éminemment politiques. Maintenant, avec son invalidation...
Joël Kadedanga, il y avait possibilité de poursuivre jeune Diomi Dongala tout en étant député. Parce que, en fait, la mesure qui a été prise pour lever son immunité parlementaire, et cette immunité avait été déjà levée.
Mais on a déjà levé.
Il y avait possibilité de les poursuivre.
Oui.
Donc on n'avait pas besoin de les valider pour
mais
les poursuivre.
On a déjà levé les immunités parlementaires. Et s'il faut tenir compte de ce moment ici, Diomi Dongala d'abord a été poursuivi pour viol sur mineur, et ensuite il a été porté disparu, ou il a été arrêté. Par la suite, il est réapparu, il cherche à aller aux soins médicaux, on l'en empêche, et puis il est arrêté. Comment est-ce quelqu'un comme ça? C'est là où ça sent le roussi. Et c'est là où je dis à mon confrère Luc que si on reste qu'au niveau de l'administration, on va biaiser cette question parce qu'elle est éminemment politique.
Vous savez que depuis le début de cette mandature, il y a des députés qui n'ont jamais été présents à l'Assemblée nationale. Or, la loi dit que lorsque vous vous absentez, pendant un certain nombre de plénières, vous êtes sanctionné. Fallait-il faire quoi? Fallait-il cautionner cette situation parce que c'est des députés de l'opposition où il fallait appliquer la loi?
Il n'y a pas un problème de qui le député a reçu le mandat. On peut suspendre les émoluments d'un député, on peut suspendre ses avantages en tant que député, mais on ne peut pas ravir un mandat qu'il a reçu du peuple.
Merci.
Et cela doit être bien entendu. Et pour quelles raisons ont-ils refusé de se présenter à l'hémicycle?
Donald Moussema, il y a des députés qui estiment qu'il n'y avait pas urgence à traiter ces dossiers ces jours-là, et d'autres par contre soutiennent qu'il fallait nécessairement en finir avec les députés absentéistes.
Justement, a fortiori, si on voit la démarche qu'a suivie l'Assemblée nationale, on peut penser que c'est justifié, parce qu'on dit d'abord qu'il y avait des absences non justifiées, et puis la raison qui est avancée, c'est qu'il y avait le souci de mettre fin à cet absentéisme caractérisé. Bon, a fortiori, on peut penser que c'est une bonne démarche, parce que les députés ont appliqué quand même les textes constitutionnels et aussi le règlement d'ordre intérieur. Maintenant, on se pose la question, comment les députés peuvent toujours continuer à percevoir les émoluments et à avoir d'autres avantages alors qu'ils ne sont pas en train d'assister aux plénières? Ça, c'est d'une façon globale. Mais maintenant, la question que l'on se pose, pourquoi seulement cette invalidation devait intervenir aujourd'hui, 18 mois après? Pourquoi ils ont attendu tout ce temps? C'est une question que je me pose. Nous avons suivi, par exemple, les députés de l'opposition, Grégoire Quiroz, qui pense que on a fait deux pas de mesure parce qu'il y a des députés de la majorité, d'après lui, qui ne sont pas inquiétés. Donc on voit qu'on s'est plus acharné, députés de l'opposition globalement, et qu'à un niveau, il y aurait peut-être un petit règlement des comptes, et c'est ça un peu qui explique un peu. Mais globalement, si, c'est dans le souci de remettre les choses en ordre, je pense que c'est salutaire comme mesure, mais il ne faut pas qu'il y ait deux pas de mesure. Et que les députés, donc, ainsi, parachèvent leur logique en invalidant aussi, sans distinction, le mandat de tous les députés qui seraient absentéistes, qu'ils soient de la majorité, tout comme de l'opposition. Donc, C'est comme ça que je comprends la chose.
Luc Mikomo Kabongat, beaucoup de choses se disent au sujet de l'invalidation de ces 5 députés. Pourquoi cela intervient les jours où l'Assemblée est en train de clôturer sa session? Et pourquoi la commission PAJ, qui était en train d'examiner les dossiers, dépose les dossiers aux députés les mêmes jours, alors que la loi demande à ce que les rapports soient déposés auprès des députés 48 heures avant? Voilà toutes ces questions que les gens se posent et suite à cela, bon, il y a une certaine opinion qui estime que la procédure n'a pas été respectée.
Alors, moi je voudrais faire la part des choses. Pour éviter un peu d'amalgame, comme je viens de l'entendre un tout petit peu de la part de mon confrère
Joël.
Et donc, vous êtes responsable d'un canard. Quand un de vos membres brille par l'absence et qu'il vient vous demander l'argent, son salaire, la fin du mois, je crois que vous allez adopter la même attitude que celle adoptée par l'actuel bureau de l'Assemblée nationale. Et je crois même que cette décision prise avec courage, me semble-t-il, et sans complaisance, par Aubin Minaku, fera école, fera date. Mais il est bien vrai, Guy, pour revenir à votre question, qu'il y a eu quelque part des vices des procédures. Et ça, si ceux qui arguent de cette manière l'éprouvent véritablement, on peut dire que oui, si on creuse un peu en profondeur, on peut découvrir qu'il y avait eu des velléités intentionnelles de nuire à l'opposition. Disons ça comme ça. Mais prenons les faits. Nous, journalistes, nous sommes spécialistes des faits.
Luc Mikomo Kabongat, oui. Au-delà des faits, peut-on affirmer qu'il s'agit d'une décision politique couverte par un argumentaire juridique?
Ça, je vous le laisse dire. Moi, je l'analyse rationnellement. Je trouve que cette décision est d'abord administrative. S'il y a un pan politique qui s'y ajoute, ce qui n'est pas totalement à exclure, ça vient en second lieu. Mais d'abord, la presse a décrié, vous avez cité sous la mandature de Beauchamp, l'absentéisme non puni. Faut-il, Joël, qu'on continue dans l'impunité ou faut-il, une fois dans l'histoire, se lever dire « niet, ça suffit, on sanctionne » pour que la postérité puisse en tirer
des leçons. Il y a l'Union internationale des parlementaires qui affirme qu'un député a mandat du peuple et ne peut être invalidé pour raison d'absentéisme.
Oui, mais ces députés doivent aussi lire les textes parce qu'il n'y a pas de prêt-à-porter universel dans toutes les assemblées nationales, dans toutes les représentations du peuple. Ici, chez nous, il y a un article 110 en l'occurrence qui dispose que lorsqu'un député a atteint 9 absences lors d'une session, il doit être sanctionné. Qu'est-ce qu'on en fait? Faut-il se tourner vers des dispositions, j'allais dire, génériques, globales, ou faut-il se cramponner sur ce que l'on a soi-même décidé, l'on a soi-même fixé comme règle du jeu?
Oui, Joël Kadet-Danga, parce que cette décision est controversée, que proposez-vous pour concilier, n'est-ce pas, les deux thèses, celles qui pensent qu'il faut nécessairement appliquer la loi, donc sanctionner les députés absentéistes, et celles qui pensent qu'il faut plutôt consolider la cohésion nationale, et c'est pourquoi ce genre de décision ne doit pas être prise dans un contexte comme celui-ci.
Je dois avouer que les acolytes du chef de l'État sont vraiment en déphasage avec sa vision, avec ses objectifs. Le 15 décembre de l'année passée, je veux bien le dire, le président devant le Congrès a prôné un dialogue, des concertations qui devaient aboutir à la cohésion nationale. Mais les comportements affichés par les membres de la majorité politique, notamment envers ceux de l'opposition, vous allez sentir que vraiment on est en déphasage. Pendant que le chef de l'État Joseph Kabila Kabange cherche la cohésion nationale, les autres sont en train de repousser.
Alors,
ceux de la majorité.
Vous proposez quoi pour harmoniser les points de vue?
C'est là où je voudrais chuter pour dire que la décision administrativement parlant, il n'y a pas eu d'amalgame, il n'y a pas à tomber dans la grue comme les confrères veulent dire. La décision sur le plan administratif, en tout cas, il n'y a pas à reprocher. Mais lorsque on voit que nous sommes en guerre et que nous avons besoin de l'unité nationale, de la cohésion nationale. C'est qu'il faut privilégier par rapport aux autres aspects. Vous savez, il y avait un Tangana dans ce pays qu'on a laissé jurer dans l'armée nationale congolaise, juste pour besoin de paix. Mais pour besoin de cohésion nationale, il a fallu recourir à des voies pacifiques pour appeler ces gens-là, les entendre d'abord et même le insister pour qu'ils viennent à l'hémicycle. Est-ce que cela a-t-il été fait? Non. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut? C'est un acharnement, c'est un règlement de compte et voilà tout. Et c'est là où nous proposons la solution serrée, la cohésion nationale telle que prônée par le chef de l'État. Qu'on réconcilie les Congolais.
C'est-à-dire nous avons besoin... les députés qui ont été invalidés.
En effet, il faudrait qu'on... Mais je crois, le confrère l'a dit, cela fera école, cela fera leçon pour les générations à venir.
Ça peut être le mérite même de cette décision.
Oui, mais au moins, on doit privilégier la cohésion nationale au point où on est.
Dona Moussema, qu'est-ce que vous proposez pour essayer d'harmoniser les points de vue?
Je me dis que localement, j'ai soutenu la procédure, hein, même si il y a des députés qui n'ont pas été entendus, mais je déplorais le fait qu'il y aurait acharnement parce que ils sont essentiellement de l'opposition. Il faudrait donc que les députés parachèvent leur logique, donc en frappant et du côté de la majorité et du côté aussi de l'opposition. Mais pour le point de vue qu'on a, je pense qu'il faut qu'on tire les leçons. Comme les confrères l'ont dit, ça donne une leçon aux générations et à d'autres députés parce que nous avons appris quand même qu'il y a plus de 275 députés qui se sont absentés à cette session. Donc je pense que c'est une leçon, c'est une mesure pédagogique. Il faudrait qu'on la comprenne comme telle, mais il ne faudrait pas qu'il y ait acharnement et qu'il y ait des pas de mesure, mais c'est quand même globalement salutaire.
Merci. Luc Mikomo Kabongat, vous avez dit que le mérite de cette décision, c'est que ça va faire école. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faut proposer, n'est-ce pas, pour essayer d'harmoniser les points de vue?
D'abord, je dis ceci, que la cohésion nationale ne signifie nullement l'unanimité de tous. Ça ne signifie nullement le règne de l'impunité. Et la solution que je propose, c'est le retour à la légalité, à la légitimité. La légitimité entendue comme la raison fondamentale d'être des décisions et des actes qu'on prend. Ces décisions, ces actes qu'on pose doivent être en harmonie, en cohésion avec les textes qu'on s'est choisis.
Et donc il faut continuer à sanctionner, il ne faut pas s'arrêter aux 5 députés.
Il faut continuer à sanctionner les récalcitrants et il faut continuer à sanctionner positivement ceux qui sont en harmonie avec les textes, avec la loi, avec l'ordre.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Province du Katanga, le calme est revenu depuis dimanche après-midi à Lubumbashi. Ce, après des affrontements entre les Bakata Katanga et les FRDC au village Shindaika, situé à plus ou moins 20 km de la ville de Lubumbashi. Des sources policières parlent de plusieurs tués du côté des assaillants, et aussi un militaire FRDC et un officier de renseignement. Les détails avec Jacques-Yves Molima.
C'est le village Shindaika qui était le théâtre de ces affrontements, indiquent plusieurs sources. Cependant, le bilan est controversé. Les uns parlent d'une personne tuée et de deux blessés qui seraient à l'hôpital militaire de la commune Roissy. Les autres avancent le bilan de quatre personnes, dont un officier militaire et un autre agent de service de sécurité décapité. Les blessés sont une femme et un enfant. Dans ce village, plusieurs cadres sont incendiés. Des sources policières ont indiqué que les Bakata Katanga, qui étaient lourdement armés, ont été mis en déroute et plusieurs d'entre eux sont tombés sans en préciser le nom. Jusqu'à présent, aucune réaction de la part des autorités politiques. Toutefois, la nuit dernière, la sécurité était renforcée dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Des patrouilleurs étaient visibles ça et là et la circulation était réduite.
Joël Kadedanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. La question Bakata Katanga a fait surface en dépit de l'arrestation et les transferts à Kinshasa au mois de mars dernier de plus de 250 Bakata Katanga.
Oui, la question refait surface, Guy Maté, c'est parce qu'on la traite avec beaucoup de légèreté et beaucoup de complaisance. Et le cas de l'insécurité dans notre pays n'a pas commencé seulement au Katanga. Et nous avons le cas de Enyele, un cas des étangs, un cas d'ordre ethnique qui pouvait être géré d'une manière administrative, mais une armure terrible avait été envoyée à l'Équateur pour les bouteilles dehors, faut les maîtriser. Nous avons eu le cas de Mbunu Diakongo, au Bas-Congo, et auquel on a mis vraiment fin et on a pratiquement désarmé politiquement Mbunu Diakongo jusqu'à lui retirer même le statut de parti politique. Mais au Katanga, on semble laisser faire, on semble laisser les choses aller comme elles vont. C'est comme s'il y a des complicités, des complaisances dans le traitement de ces dossiers. Le gouverneur de province qui avait été informé par les Bakatakan. La fois passée, j'étais en train de causer avec un confrère sur la chaîne de mon confrère ici présent qui disait que non, ce sont les chantages. Le chantage, ce sont les mots qui ont été écrits sur le rapport des agents de renseignement transmis au commandant suspendu de la 6e région militaire qui avait trouvé ça que c'était du chantage. Ce n'est pas du chantage, ces gens sont armés. Ce qu'il faudrait faire au temps où nous sommes arrivés, c'est que les complicités soient établies. Certains noms avaient été cités certainement pour peut-être permettre que ceux qui sont dans l'affaire soient lavés. Je crois que la sanction positive ou négative devrait suivre. Parce que au moment où il n'y a pas de sanction, ni positive ni négative, on semble croire qu'il y a un peu une certaine légèreté. Ce qu'il faudrait faire au point où nous sommes arrivés, c'est que l'armée rétablisse l'ordre, parce que les gens sont en train de mourir, et ce ne sont pas de cancres là qui sont en train de mourir, les gens meurent, les militaires meurent, les civils meurent.
Merci.
Il faudrait à ce niveau ici, et pour vraiment la paix, il faudrait la cohésion nationale, une table ronde pour que chacun, à tous les niveaux, établissent ses doléances, qu'est-ce qu'ils réclament.
Merci,
je crois qu'ils s'opposent à la décentralisation, que cela leur soit bien expliqué. Je crois qu'on trouvera la paix une fois pour toutes dans cet espace du Katanga.
Merci. Dona Moussema, je rappelle que vous êtes le directeur de la radio communautaire Iriba FM, émettant depuis Bukavu Sud Kivu, et secrétaire provincial de l'UNPC. On se rappelle qu'au mois de mars, après qu'ils aient hissé leur drapeau à la place Tchoumé dans la ville de Lubumbashi, une série de mesures avaient été prises par le gouvernement central, notamment les remplacements à la tête de la DGM, des FRDC et police au niveau provincial. Mais aujourd'hui, on est tenté de se poser la question sur l'efficacité de ces mesures qui avaient été prises à l'époque.
Justement, nous sommes habitués à des bons précédents dans le pays, nous sommes habitués à des mesures souvent qu'on prend mais qu'on n'applique jamais. Je pense qu'une mesure qui est prise, qui n'est pas appliquée, ça ne sert à rien même de la prendre. Si aujourd'hui on avait appliqué toutes ces mesures, je pense que la situation ne serait plus explosive aujourd'hui dans le cas.
Voilà, Moussema.
Oui.
En fait, les mesures avaient été appliquées parce que il y a eu des sanctions. On a sanctionné les commandants provinciaux FRDC, les commandants provinciaux police et les directeurs provinciaux de la DGM. Des mesures avaient été prises. Mais bon, on se rend compte que ces mesures-là ne sont pas efficaces parce que elles n'ont pas produit d'effet. Les effets escomptés.
C'est justement ce que je disais. Si c'était des mesures efficaces, elles produiraient des effets positifs. Alors, pourquoi aujourd'hui encore, on déplore toutes les agitations de cette milice dans les Katanga. Donc, c'est un peu ça la question. Je pense qu'il est question qu'on prenne des mesures d'une façon tout à fait consistante, des mesures salutaires, qu'on puisse appliquer dans la rigueur et qu'on puisse faire aussi le suivi. Généralement, je pense que les autorités congolaises prennent des mesures, mais elles n'ont pas souvent le temps de faire le suivi. Or, quand on ne fait pas le suivi d'une mesure, à quoi elle va servir? Et tout ça, un peu la problématique générale, et ça nous ramène à la situation d'une sécurité fragile généralisée dans les pays, même à l'est du pays, donc notamment au Katanga, au Kivu, même en province orientale. Je pense que ça devrait plutôt faire réfléchir, qu'on voit comment on peut endiguer le mal en attaquant le taureau par les cornes.
Luc Mikomo Kabonga, que je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa, et vous êtes aussi éditeur du journal Nouveau Regard. Officiellement, les Bakata Katanga revendiquent la sécession du Katanga, et une certaine opinion analyse ces problèmes comme étant un épiphénomène. Elle estime qu'il y a des facteurs causaux auxquels il faut s'attaquer, il y a des problèmes de fond dont il faut tenir compte.
Non, d'abord, le phénomène Katakatanga, en fait, c'est comme ça qu'on dit à Lubumbashi.
C'est comme ça qu'ils se font appeler.
Oui, pour moi, c'est la manifestation visible de la déliquescence de l'État, de l'absence de l'État, si vous voulez brutalement, du non-État. Parce que, voyez-vous Guy, le confrère, Joël l'a dit tout à l'heure, il y avait le phénomène Eniélé dans l'Équateur. On a réprimé ça sans coup férir. Les phénomènes Bundudia Congo, on est allé jusqu'à lui retirer le statut de parti politique. D'où sont venus les moyens dont le gouvernement s'est servi pour réprimer ce qu'on avait appelé les velléités séparatistes. Bon, aujourd'hui, les gens disent que le phénomène Katakatanga, c'est un épiphénomène. Que non ! J'ose croire que ces gens-là ont tiré des leçons du comportement de notre gouvernement. Le gouvernement a été complaisant avec les RCD d'abord, toutes les rébellions, puis avec les CNDP, et puis avec les M23. Ça veut dire brutalement que ces mouvements insurrectionnels créent des opportunités de business. Et donc, le business rapporte de l'argent, beaucoup d'argent.
Et donc, le fait d'avoir réhabilité ceux qui, hier, avaient pris les armes contre le gouvernement, cela a créé un précédent fâcheux.
Oui, bien sûr, mais les résultats sont là. On voit que ceux qui ont tenté l'aventure et qui ont été récupérés, incorporés, ils ont laissé, comme j'allais dire, des souches de cancer. Et ces souches-là, ça pousse. Et la ramification de la maladie devient de plus en plus générale et le gouvernement se trouve dans l'impossibilité ou fait montre de manque de volonté et d'engagement pour endiguer ce que l'on considère comme une aiguille ou une épine sous les pieds du gouvernement.
Merci, Joël Kadedanga. Une autre question que les gens se posent au sujet de ce phénomène Bakatakatanga, c'est le fait qu'aucune structure politique n'a jusque-là revendiqué l'action des Bakatakatanga. Ils n'ont mis en place aucune structure classique. Il n'y a pas de porte-étendard, de porte-parole qui peut exprimer clairement les revendications de ces mouvements.
Non, Guy Mathieu.
Or, vous avez dit qu'il faut une table ronde, n'est-ce pas, pour essayer de parler avec ces gens, écouter leurs revendications. À partir du moment où il y a absence d'une telle structure, comment cela pourrait se faire?
Non, ils ont une structure. Il y a leur porte-étendard, le président Cissé Ntanda Ilungala.
Vous le connaissez?
Non, je ne le connais pas. Ils ont la structure. Lorsqu'ils sont arrivés le 23 mars dernier à Lubumbashi, ils se sont dirigés vers le quartier général de la MONUSCO. Et là, ils ont transmis leur message. Et au niveau du quartier général de la MONUSCO, on leur a dit, vous ne pouvez pas transmettre ce message à nous, attendez qu'on appelle les autorités locales pour leur présenter. Et c'est à cette occasion qu'on a fait revenir Moïse Katumbi. Et c'est ainsi qu'il est rentré pour entendre leur message et même leur parler ce même jour-là. Il leur a parlé. C'est question qu'on mette les mécanismes en place pour les approcher. Parce que, mon confrère l'a bien ainsi dit, il y a déjà une apologie de la guerre qui a été déjà insérée dans les têtes de la jeunesse pour dire quand on prend les armes, on est gratifié et c'est ainsi que si on avait appliqué la recette de Eniélé ou la recette de Bundudia Congo, je crois que ça aurait été mis fin. Mais comme on applique la recette du RCD, la recette du CNDP, et voilà pourquoi ils continuent à se battre, à mourir, parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, on va les approcher.
Luc Mikomo.
Franchement, en ce qui concerne le dialogue ou la concertation, je vous ai dit clairement, et là peut-être je m'adresse directement au chef de l'État, on ne peut pas dialoguer avec n'importe qui. L'État a un caractère répressif. Ceux qui ont de relents religieux diraient l'État est sacré. Moi je voudrais que les gens qu'on peut écouter sont des gens écoutables. Il y a des gens avec qui on ne peut utiliser que le langage de force. On les réprime, on les réduit, point barre, on tourne la page.
Merci, c'est la fin de cette émission. Guy Manzangu était à la technique, Samuel Kachak à la réalisation. Sous la supervision de Pélé Kipera Mondo, devant ses micros, Guy Mathé. La rediffusion de cette émission, c'est demain à 4h15, heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Capi.